voix marseillaise. Pedro Consuegra est arrivé à Marseille il y a 60 ans. Danseur, chorégraphe, maître de ballet et même directeur du ballet de l'Opéra de Marseille, il a exercé sa passion pour la danse classique durant des décennies ici et ailleurs. Il est né à Cuba et a rejoint l'Europe très jeune, juste après la fin de ses études et de la formation de danseur à La Havane. Il a fréquenté de nombreuses scènes européennes avant de décider de poser définitivement ses valises à Marseille. C'était en 1965. Pedro Consuegra est une figure incontournable de la danse classique à Marseille, à l'époque où la scène marseillaise brillait en France et au-delà. À près de 87 ans, il garde intact son amour pour cet art et son attachement à l'Opéra de Marseille, sa seconde maison, pendant de nombreuses années. D'ailleurs, depuis son installation dans la cité phocéenne, il a toujours vécu dans le quartier de l'Opéra, à proximité de son lieu de travail. Bonjour Pedro Consuegra.
Bonjour.
Alors, vous êtes né à Cuba, vous êtes venu ensuite assez jeune en Europe pour exercer votre métier de danseur et maître de ballet. Auparavant, j'aimerais qu'on évoque votre vie cubaine.
Je suis parti de Cuba, j'avais plus de 25 ans, alors donc il y a un quart de siècle que j'ai passé avant à Cuba. Toute mon enfance dans un petit village, tellement petit que pour faire le lycée, il fallait aller à une autre ville qui était plus grande. Alors il fallait tous les jours en bus, tout ça, c'était compliqué.
Comment s'appelait votre ville de naissance ?
Ça s'appelle Camahuani, en langue indienne, parce que c'était, là il y avait des Indiens qu'on appelle Siboney. Camahuani, ça veut dire de l'eau claire.
Le paysage de votre village, c'était quoi ? Un paysage montagneux ? Est-ce que vous vous souvenez de la faune, de la flore ?
C'était pas montagneux. Plutôt bas, il y avait quand même des forêts, des animaux dans les forêts, mais aucun animal nuisible. Et il y avait donc des rivières où je me baignais, plus avec des familles, avec mes cousins. C'est un souvenir très agréable.
Votre père, votre mère, ils sont venus d'où ? Ils se sont installés quand à Cuba ?
Du côté de ma mère, c'est très clair. C'est les Canaries. La région justement d'où je viens, c'est le centre de Cuba. Il y avait surtout des Canariens. Madame, le côté de mon père, c'est... Quand on m'a fait l'ADN, on a vu que c'était très compliqué et que j'avais des racines partout. C'est mon père et ma mère, tous les deux sont nés à Cuba. Je crois qu'ils sont nés dans mon village, de là où je suis né.
Vous étiez combien d'enfants dans le foyer ?
Deux, ma sœur et moi.
Vous passez le bac, je crois, là-bas, dans ce petit village. Vous faites des études assez brillantes, hein. Vous êtes précoce, si j'ai bien compris, un peu surdoué. 15 ans, vous avez déjà le bac.
Ah oui, oui, deux bacs, scientifique et littéraire.
Vos parents étaient des intellectuels ? De quelle classe socio-professionnelle ils étaient, vos parents ?
Ma mère, c'était une femme au foyer. Mon père était comptable. Il voulait que je sois comptable. Alors donc, c'est pour ça qu'il m'a obligé à faire des études de dactylographie et de sténographie que j'ai bien réussi. Encore aujourd'hui, ça fait quand même des siècles, je suis un sténo dactylo. c'est resté pour toujours.
Alors à 15 ans, vous avez le bac et vous décidez, vous êtes un peu obligé de partir à la capitale, à La Havane, si vous vouliez continuer vos études. Alors comment se passe l'arrivée à La Havane ? Vous êtes logé chez qui ? Est-ce que la séparation avec votre famille, elle se passe comment ?
Il y avait une cousine lointaine de ma mère. Elle louait des chambres à des étudiants de toutes sortes. Hein. Il y avait d'ailleurs des amis qui étaient cubains, mais il y avait des portoricains qui faisaient de la médecine. Moi, je faisais D'abord, j'ai fait un an de mathématiques, de physico-mathématiques. Après, j'ai fait la philosophie et j'étais le seul. Tout le monde était dans scientifique, était dans la médecine. Des très bons souvenirs. On allait à l'université, qui n'était pas loin, on allait à pied. À la maison, on s'amusait, on jouait quelquefois aux cartes.
Vous étiez au cœur de la Havane, vous vous souvenez de la rue
Oui, je me rappelle très bien, c'était un quartier qui s'appelle Vedado. Un quartier très bien. Ah, c'était pas du tout un quartier très populaire.
Vous vous souvenez de la rue et des numéros éventuellement?
Ça s'appelait Avenue des Présidents, 21. C'était à l'angle de la rue 17. Voilà. C'était une maison à deux étages, très grande, avec beaucoup, beaucoup de chambres. C'est pour ça que cette dame, qui était la parente de ma mère, louait des chambres et tout était occupé. On a connu Fidel Castro, qui était venu nous haranguer à l'université. Il est venu là nous parler de sa révolution. Il y avait un encadrement militaire au pays. Évidemment, pas tout le monde l'aimait. Et la gauche, ce qui était du point de vue politique gauche, n'était pas du tout heureuse. Là. C'était plutôt un régime de droite.
Alors, vous avez fait des études de grec, c'est ça?
Grec et latin. Et là, ça m'a fasciné. On aurait dit que j'étais né pour l'apprendre un jour. Je me trouvais chez moi. J'ai gagné des prix même. J'étais toujours le numéro 1 en grec et en latin. J'ai traduit Pindar, les poètes Pindar, et de Sophocle, les prologues de sa tragédie Ajax, dans un espagnol rythmé.
Donc, vous faites des études, et en parallèle, à 15 ans, vous découvrez la danse, qui va devenir centrale dans votre vie, même jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment vous découvrez la danse? Et qu'est-ce qui vous amène à pratiquer la danse? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Comment vous avez découvert la danse?
Dans mon village, il n'y avait pas de ballet à l'époque. Il n'y avait pas non plus de télévision qui transmette des choses. Alors, je n'avais jamais vu un ballet. Jamais de ma vie. J'avais déjà 15 ans et je ne savais pas ce que c'était un ballet. Et j'arrive à La Havane et là, par hasard, je suis allé un jour voir un spectacle. Et c'était le ballet Gisèle. C'était Alicia Alonso, une danseuse cubaine fameuse, célèbre dans le monde entier, qui dansait. Et ça a été une révélation. C'est comme si une voix me disait, voilà ce que tu dois faire. Alors là, c'était une grande confusion dans ma tête, parce que j'étais pour les études, hein, pour la philosophie, pour la philologie. Mais ça m'attirait, la danse. Entre parenthèses, tous les Cubains savent danser. C'est le pays de la danse. Depuis qu'on est tout petit, on danse. Il y a la musique cubaine est typique et tout est dansante. C'est une musique de danse. Oui, j'ai dansé des rythmes cubains. C'est pas du classique. J'étais avec des gens qui m'ont dit, mais si tu veux apprendre, c'est facile parce qu'il y a une école, etc. Et je me suis pointé là, tout de suite.
Vous vous souvenez du nom de l'école?
Tout à fait. C'était l'école de danse de Pro Art Musical. Une société qui faisait venir des artistes, qui avait des cours de danse, des cours d'art dramatique et des cours de guitare. Le directeur s'appelait Alberto Alonso. Et il était le beau-frère d'Alicia Alonso, la danseuse que j'avais vue danser Gisèle, justement. Alors là, c'était des études. Vous savez, on ne voit pas ça ailleurs, hein. Nulle part. On voit l'étude de la danse classique avec une méthodologie logique et parfaite, voilà. Et c'est une chance, parce que j'ai commencé très tard, à 15 ans. Alors donc, normalement, ça c'était impossible de devenir danseur. Mais grâce à cette école, grâce à cette méthodologie, tout de suite, ça a été très vite, très 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 vite.
Mais c'était une méthode spécifiquement cubaine ou ça venait d'ailleurs? Est-ce que vous savez comment s'est incrustée, comment est arrivée la danse à Cuba, la danse classique?
Tout à fait. C'est une méthode cubaine, mais issue de l'expérience d'Alberto Alonso avec les Russes. Parce qu'il avait été danseur dans les ballets russes. Donc, il a appris tout ce que les Russes pouvaient lui apprendre et après il a disons, transformer ça dans une méthodologie propre de Cuba. Vous savez, c'était un trio. Deux frères, Alberto, Fernando, et Alicia, qui était l'épouse de Fernando, et qui était une grande danseuse. Fernando était aussi un danseur. Alors, donc, Fernando et Alicia, ils avaient travaillé beaucoup aux États-Unis, avec des professeurs aussi russes exilés après la Révolution. Tandis qu'Alberto avait travaillé directement avec les Russes. Donc c'est un ensemble, si vous voulez, un mélange de tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'école cubaine de ballet, qui est célèbre dans le monde entier, parce que là, les danseurs cubains sont partout aujourd'hui.
Quand vous fréquentez cette école, vous la fréquentez régulièrement, tous les jours vous allez danser. Comment se passe un peu la danse par rapport à vos études? Parce que finalement, si j'ai bien compris, à la base, vous ne pensiez pas faire carrière dans la danse.
Pas du tout.
Est-ce que vous, dans cette école, il y avait beaucoup de garçons?
Quand je commençais, on n'était que deux. Tous les restes étaient des filles. Très mal vues. Bon, nos racines espagnoles faisaient que ce n'était pas une activité très virile de faire de la danse classique. Hein. L'autre danse, oui, les danses populaires, oui, au contraire. La rumba, la conga, tout ça, ça c'était normal. Mais la danse classique, à l'époque, était considérée une activité uniquement pour les filles. Moi, d'ailleurs, ma famille ne savait pas que je dansais. J'ai fait mes premiers cours, mes premières années de danse en cachette. Parce que j'étais à La Havane et eux, ils étaient dans mon village. J'étais resté à Camajuani. Alors donc, ils ne savaient pas ce que je faisais à La Havane.
Vous aviez honte de le pratiquer ou de le dire?
Non, je n'avais pas honte. C'était de l'astuce. C'était parce que si je disais à ma famille que je dansais, là, ça aurait été une catastrophe. Alors ça aurait fait beaucoup de chagrin à ma mère, mes parents en général, et même mes tantes, mes cousins, mes oncles. Tout ça, on aurait vu ça comme un bâtard. Il aurait été quelqu'un qui n'était pas digne d'être le parent. Non, non, non. Là, il fallait le cacher. J'ai attendu longtemps avant de quand c'était inévitable. Alors là, ils l'ont su. Ils l'ont su, mais c'était trop tard, ils ne pouvaient pas réagir.
Alors donc, vous faites de la danse en parallèle de vos études. Vous restez combien de temps dans cette école? Qu'est-ce que vous devenez quand vous finissez votre formation de danseur et aussi l'université?
Ce sont deux choses très différentes. L'université, c'était très carré. Hein. C'était 4 ans. Il y avait un curriculum très spécifique que je suivis scrupuleusement. J'ai gagné des prix. J'étais le numéro 1. J'ai gagné même une bourse. Mais dans la danse, c'était tout à fait autre chose. C'était anarchique. Il n'y avait même pas une grande compagnie à l'époque. Il y avait une compagnie de ballet qui était pratiquement privée. Avait un petit peu d'argent, une subvention toute petite de la ministère de culture, mais c'était pas une compagnie officielle. Et là, j'étais pas là-dedans. Dans la société Proarte, là, où j'avais appris la danse, eux, ils faisaient des spectacles de temps en temps. Par exemple, ils invitaient une grande danseuse comme Alicia Markova, qui venait danser. Nous, on faisait tout le corps de ballet. Mais c'était pas une compagnie. Alors donc, je ne pouvais pas être professionnel de danse. On a fait le Coq d'Or en ballet célèbre, on a fait Roméo et Juliette et des trucs comme ça. Mais on a participé ponctuellement. Je n'étais pas un véritable professionnel. Ça c'est à l'étranger que j'ai pu le faire.
Donc vous finissez vos études, vous finissez votre formation de danseur. Vous avez peut-être une vingtaine d'années, hein, c'est au tout début, ouais. À vos 20 ans. Et là, vous décidez de partir une première fois en Europe. C'est bien ça, vous quittez Cuba.
Oui, oui.
Pourquoi?
On s'est senti un peu brimé politiquement là-bas. On n'était pas content.
C'était avant le régime de Fidel Castro, on est bien d'accord.
Ah oui, oui, il n'y avait pas encore eu la révolution. D'un côté, ça. Et d'autre côté, moi, je voulais voir le monde. C'est comme tous les garçons de tout le pays. On veut voyager, on a la curiosité. Et moi, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. Bon, j'allais au cinéma, mais la lecture était mon dada avant d'aller à La Havane. Alors que mes amis, mes camarades étaient en train de jouer ou de s'amuser. Moi, je restais à la maison et mon grand plaisir était de lire. Et je lisais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir avoir beaucoup de bons livres. Tout ça me faisait rêver d'autres pays. Tous les livres que j'ai lus de Balzac, de Zola, d'Alexandre Dumas, tout ça. Moi, je pensais à la France, je pensais à l'Europe. Il y avait une branche, si vous voulez, économique qui pensait aux États-Unis, à l'Amérique, mais il y avait une autre intellectuelle qui ne rêvait que de l'Europe. À mon avis, c'était une erreur. On ne passait pas tellement à l'Espagne, alors qu'on avait des racines espagnoles. C'était une erreur. Je l'ai découvert plus tard. On pensait surtout à la France. À la France, à l'Italie, à l'Angleterre, à l'Allemagne, à la Russie même, surtout parce qu'il y avait beaucoup de communistes. L'ambassade allemande à Cuba avait convoqué, ils avaient un programme d'attirer des jeunes de tout le monde, de tous les continents. Hein. Et ils ont convoqué, alors on était nombreux, et c'est moi qui ai eu, c'est moi qui ai eu la bourse.
En Allemagne.
Oui.
Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous restez combien de temps?
Je suis parti avec cette bourse. J'ai travaillé. J'étais embauché tout de suite à l'Opéra de Munich, au ballet de l'Opéra de Munich. Ça a commencé là, à Munich. Après, il y a un grand maître très respecté de l'époque ancienne de Diaghilev, de ballet russe, qui s'appelait Boris Kniazev, qui m'a vu danser, qui a dit, je vais faire de toi un grand danseur, il faut que tu viennes travailler avec moi. Je suis allé travailler avec lui à Genève. Après, dame suédoise, qui était professeur et qui avait beaucoup d'influence à Stockholm, m'a vu et m'a dit, il faut venir en Suède, voilà. Elle a trouvé que j'avais les conditions qui lui plaisaient. Et moi, j'étais curieux. Là, j'aurais dû rester en Allemagne, j'aurais pu rester en Allemagne. Ou même venir en France. Je suis parti et je suis resté 3 ans dans le Nord. J'ai dansé en Finlande, j'ai dansé en Norvège et j'ai dansé aussi à Stockholm, en Suède. Le problème, c'est le climat. C'est le manque de soleil en hiver et l'excès de soleil en été. Ces deux excès-là, c'est très différent, très, très difficile le climat là dans le Nord. Et je voulais du soleil. Alors, je suis parti en Italie. Et de l'Italie, je suis resté un peu en Italie. De l'Italie, je suis allé en Grèce, qui était mon rêve de toujours.
C'est à ce moment-là que vous décidez de rentrer à Cuba.
Tout à fait. Entre-temps, pendant que j'étais en Suède, il y a eu la révolution.
1959.
60, voilà.
Pourquoi vous rentrez? Parce que vous êtes attiré par la révolution, par le changement?
Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais c'était les rêves de tous les jeunes de mon époque. Le monde entier parlait de Fidel Castro, de la révolution cubaine, de Che Guevara, tout ça. Et je voulais voir ça de près.
Alors donc là, vous revenez. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous intégrez le ballet de Cuba?
Tout à fait. Alberto Alonso, qui était mon professeur, qui était celui qui m'avait formé, il était toujours là, mais il avait une autre activité à l'époque. Il avait la compagnie officielle qui s'était pas encore concrétisée. On l'a formé à ce moment-là. Il y avait Fernando, son frère, et le mari d'Alice Alonso, qui était à la tête. Mais il me connaissait, on se connaissait tous. Je suis allé le voir. Tout de suite, il m'a dit oui, alors viens, Pedro, viens. Et je suis rentré. Je suis resté un an, voilà, ça m'a suffi. Et le problème, c'est un problème de politique culturelle, si vous voulez. Et on était un groupe de Cubains, mais il y avait énormément de danseurs de l'Amérique latine. Il y avait des Argentins, il y avait des Péruviens, il y avait des Mexicains. Parce que c'était, après la Révolution, vous savez, la Révolution était totale. C'était toute l'Amérique latine qui entrait là-dedans. J'ai compris que je n'avais pas un grand avenir comme danseur. Entre-temps, le temps était passé, j'étais plus mûr, j'étais pas tout à fait jeune. Et ils arrivaient, les jeunes, les beaux jeunes argentins, et péruviens, mexicains, tout ça, qui allaient faire, qui prenaient des rôles, qui dansaient. Alors là, tandis que nous, et le groupe, on était une dizaine peut-être, une dizaine de danseurs cubains, on n'était pas tellement en vue. Alors, les étrangers avaient beaucoup plus de place. Alors, je suis allé voir Fernando, le directeur, et je lui ai dit, je suis désolé, j'ai rien contre, je vous dis, voilà, bravo, tout ce que vous faites, vous avez la révolution et tout, mais j'ai qu'une vie à vivre. Et là, je ne vois pas, je me rends compte que ce sont les jeunes, les plus jeunes que moi, qui vont prendre les relèves.
Vous décidez donc de partir à l'aube de la Révolution, début des années 60, vous décidez donc de revenir en Europe et vous atterrissez en Espagne. Là, vous restez quelques années. On est sous Franco. Comment ça se passe, votre arrivée en Espagne? Vous êtes où? Et qu'est-ce que vous y faites?
Je suis resté 3 ans en Espagne. À Madrid, j'ai travaillé tout de suite. J'étais maître de ballet dans une compagnie qui s'appelait les Ballets d'Espagne, de Mariem. J'ai dansé. Alors à ce moment-là, j'ai dansé les danses folkloriques espagnoles. Dieu sait qu'ils sont nombreuses. Tout dansé. Les castagnettes, j'ai appris les castagnettes. Et j'ai donné des cours classiques aux danseurs. Et j'ai dansé ce qu'on appelle les classiques espagnols, qui est pareil que les classiques. Et en même temps, j'ai appris tout le folklore, pas le flamenco. J'ai dansé dans toute l'Espagne. Et même dans les régions africaines, Ceuta. Bon, mais c'était très bien, c'était très bien. Bon, mais je mûrissais, si vous voulez, je vieillissais. J'étais à Madrid, mais on décide de faire une grande production d'une œuvre de Paul Claudel, Les souliers de Satan, à Barcelone, au Liceo de Barcelone, qui est un des théâtres les plus importants du monde. Donc, on m'engage comme premier danseur et responsable du ballet. J'étais en même temps, parce qu'on était tout un ballet, un groupe qui s'ajoutait à la production, qui était dramatique. Le Seigneur de Satan, c'est une grande épopée, un drame. Là. Il y avait les grands acteurs et musiciens, il y avait tout. Et il y avait un ballet. Et donc, les ballets, on était très nombreux. J'étais le responsable. Il y avait un chorégraphe qui avait fait la chorégraphie à Madrid. J'étais pas le chorégraphe, j'étais simplement le responsable et le premier danseur. Et j'étais là pendant toute une saison qui a duré ces souliers de Satan. Et jusqu'au jour où c'est fini. Et le jour où c'est fini, et ça c'est ça qui est intéressant pour vous, et c'est comme ça que je suis venu à Marseille. Et le jour que j'ai fini les souliers de Satan, je devais retourner à Madrid. Mais j'étais pas loin de Marseille, et j'avais un ami, un ancien élève, qui était un ami aussi, et qui dansait à l'Opéra de Marseille. et qui m'avait souvent dit, au moyen des cartes postales, des lettres, bien, un jour, passe mes mémoires, etc.
Il s'appelait comment ?
Luis Moreno. Alors, donc, puisqu'il était à Barcelone, c'était fini, au lieu de retourner à Madrid, je me suis dit, bon, je vais aller, je ne suis pas loin, je vais aller à Marseille, je n'étais jamais venu. Je connaissais Paris, mais pas Marseille. Alors, donc, je suis venu, et voilà, je suis arrivé, c'était le jour de mon anniversaire, et ce jour-là, il avait une générale à l'opéra, une répétition générale.
Vous vous souvenez de la date ?
Le 23 octobre 1965, j'ai découvert, mon ami qui était danseur m'avait invité, m'avait fait rentrer au théâtre. C'est pour la première fois que je suis entré dans l'Opéra de Marseille. J'étais ébloui, parce que c'était un chorégraphe extraordinaire qui s'appelait Joseph Lazzini, qui avait fait une série de ballets. Et moi qui étais habitué à d'autres types de danse, de classique, Lazzini, c'était un phénomène. C'était bien beaucoup plus intéressant que Béjart, que d'autres. Ça m'a fasciné. Ça m'a fasciné. J'ai dit à Luis, mon ami, j'ai dit, écoute, tu as vraiment de la chance d'être dans une compagnie avec un tel directeur. Alors il m'a dit, mais il cherche des danseurs. Pourquoi tu ne postules? Pourquoi tu ne t'es présenté? Ah, oh, mais non. Il a dit, non. Moi, je suis déjà vieux. Je suis maintenant chorégraphe, maître de ballet, je ne suis pas danseur. Et il m'a dit, Luis, écoute, fais-toi voir. Ne retourne pas en Espagne parce que, bon, il faut dire qu'à l'époque, en Espagne, les danseurs, nous, on n'avait pas de sécurité sociale. Et il fallait s'acheter soi-même les chaussons, les maquillages, etc. Et pour travailler dans des films, dans la télévision, tout ça. On ne nous donnait rien. Luis m'a dit, écoute, ici, à l'opéra, tu es une assurance sociale. Le théâtre te donne les chaussons, il te donne le maquillage. Tu n'as pas besoin d'acheter ça. En plus, tu aimes ces chorégraphes, tu aimes ce que tu as vu. Écoute, je ne sais pas, mais enfin, on va voir. Et Luis m'a dit, viens faire une classe avec lui. Quand tu ne dis rien, tu viens comme invité, et voilà. Et c'est ça, je suis venu, je fais la classe. Et effectivement, après, à la fin de la classe, il y a la femme de Lazzini qui me dit, mon mari cherche des danseurs en ce moment, est-ce que vous voudriez bien? Je dis, écoutez madame, je n'en sais rien, votre mari, il faudrait quand même qu'on se voit. Elle dit, écoutez, demain, celui qui fait la classe, venez demain. Et je dis, bon d'accord, ça va, on va voir. Et je suis resté avec Luis, mon ami, qui m'a dit, bon, ça marche bien, demain tu viens à la classe et on va voir. Et le lendemain, je suis venu à la classe. Lazzini était là, c'est lui qui a donné la classe. Effectivement, il m'a dit, monsieur, voilà, on est très content de votre ami Luis, qui était mon danseur. Alors, si vous voulez, on a une place pour vous, des grands sujets. Et j'ai dit, bon, ça va, bon, je reste. Alors, c'était une folie, parce que j'avais laissé vêtements et tout ça à Madrid. Normalement, j'aurais dû, après Barcelone, retourner à Madrid. Mais bon, là, je suis venu à Marseille, je suis resté jusqu'à aujourd'hui.
Ça fait maintenant près de 60 ans que vous êtes là. Ici, en plus, dans le quartier de l'Opéra, puisque vous habitez juste
oui,
à côté.
J'ai toujours habité à côté, oui.
Dès le départ, vous avez cherché à habiter à côté de votre lieu de travail.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est ma consigne, ça. Toujours, toute ma vie, j'ai toujours vécu à côté de l'endroit où je travaillais. Et là, j'ai vécu... Non, d'abord, j'ai vécu... C'était du côté... Pas loin de Castellane. Enfin, tout de suite, j'ai pris un appartement à la rue Pavillon, qui n'était pas à côté de l'Opéra. Et de la rue Pavillon, je suis venu ici, à la rue Sainte, où je suis à un pas, à deux minutes de l'Opéra.
Donc, Lazzini est content de vous. Il vous voit pour la première fois. Il vous embauche en tant que danseur. Mais très vite, vous devenez plus que ça. Pour Lazzini, pour Joseph Lazzini. Vous allez être son bras droit. Alors comment se passe un peu l'évolution du travail avec Lazzini ?
Pas les bras droits, parce que les bras droits étaient sa femme. Qui l'aidait. Non, lui il a découvert, il a vu, j'ai amené de tout mon passé, J'avais travaillé, je vous ai dit, mon père m'avait obligé à être dactylo et sténo et tout ça. Et en même temps, je parlais beaucoup de langues. Et l'enseignant a dit, voilà, Pedro, j'ai besoin de quelqu'un qui connaisse, voilà, vous êtes en plus maître de ballet, alors vous avez le professeur, vous avez un tas de qualités qui me conviennent. Et si vous voulez, je vous engage comme régisseur, pour m'aider. Et c'était la deuxième année. Et j'ai dit tout de suite, oui, bien sûr, ça m'intéresse. Parce qu'il l'admirait beaucoup. Hein. Travailler avec lui, c'était un honneur.
Donc Lazzini était directeur de ballet de Marseille, c'est ça? Et chorégraphe.
Du ballet de l'Opéra de Marseille. Il était le directeur, oui.
Donc vous restez quelques années avec lui, vous grimpez les échelons, et finalement, en 1972, vous êtes embauché comme directeur du ballet de l'Opéra de Marseille.
Ah non, mais...
c'est ça ou pas?
Non, avant. Alors, Lazzini, il est en 1969, on lui a proposé d'aller à Paris, le ministère de la Culture lui a donné la possibilité d'avoir une compagnie à Paris. Et il a décidé d'y aller. Parce que, bon, comme la plupart, l'immense majorité des personnes dans le monde gallo-français, voilà, on rêve de Paris. Mais ce n'était pas mon cas. Il voulait que je parte avec lui à Paris. Il m'a dit, ben non, vous venez avec moi, bien sûr. Il a dit, mais non. Mais comment, vous êtes fou? Vous allez rester à Marseille? Mais il a dit, oui, il reste à Marseille, je ne vais pas, je suis très bien à Marseille. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous ne savez pas ce qui va se passer après. J'ai dit, bon, on verra, on va voir, mais il reste à Marseille. Et il est venu, Madame Hightower, Rosella Hightower, une danseuse américaine excellente, une dame, une femme d'une finesse, d'un talent, une femme adorable dans tous les sens. Alors, elle est venue, et j'étais là. Elle m'a dit, monsieur Consuera, voilà, je suis au courant du travail que vous avez fait avec Lazzini. Voulez-vous le faire avec moi? C'est-à-dire, le même secrétariat, là. Et je dis, ah, mais oui, bien sûr. J'étais attaché à l'opéra. C'est locatif, voilà. C'est les endroits, là. Je suis attaché à des endroits. Et là, j'étais très bien à l'opéra. Je ne voulais pas quitter l'opéra. Alors, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, oui, madame, je travaille avec vous. Et là, ça a très, très, très bien marché. Parce qu'elle avait son école à Cannes, et elle s'est partagée entre les deux. Il fallait quelqu'un à Marseille qui assure quand même tout ce qui est une programmation. À l'époque, il y avait énormément de travail. Et on a eu des grands ballets. On a eu Nourieff qui est venu plusieurs fois. On a fait une belle Obra dormant qui a été célèbre, qu'on a fait à Paris après, à deux semaines au Palais des Sports de Paris, à guichet fermé. On vendait même les marches de l'escalier. Nourieff après est venu, il a fait Don Quichotte, avant d'aller le présenter à l'Opéra de Paris. Nous, c'est nous qui avons eu la première à Marseille. Et en même temps... plein de chorégraphes qui venaient, Mirko Sparambleck, Serge Liffard est venu faire sa suite en blanc. C'était une période très, très fructueuse.
En 1972, vous prenez sa place, c'est bien ça?
Bon, en 1972, la mairie de Marseille décide d'inviter Roland Petit pour créer une compagnie, une grande compagnie, qui s'appelait les ballets de Marseille Roland Petit. Toute l'attention a été centrée sur Roland et sur cette compagnie. Et à l'opéra, il est resté un petit noyau pour faire les opérettes et les ballets d'opéra. Et là, moi, je demandais à rester à la tête de ce petit groupe à l'opéra. Les directeurs... Reynald Giovanninetti, qui était le directeur de l'opéra, m'a soumis à trois épreuves, c'est-à-dire faire la chorégraphie d'une opérette, d'un opéra et un ballet. Et l'opérette, c'était Fifi. L'opéra, c'était Benvenuto Cellini. Pas facile. Et j'ai fait un ballet des Sylphides. Et ça a très bien marché, donc j'ai gagné la place. Et on m'a nommé directeur du ballet, en même temps maître et directeur de l'école.
Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la rivalité entre Roland Petit et vous ? C'était un peu compliqué, non, je crois. J'avais compris, pour parler un peu vulgairement, qu'il vous avait piqué des bons danseurs, quoi.
Mais il avait tous les droits, parce que la mairie, c'était la mairie qui nous payait tous. Alors, il était d'accord avec les maires, alors il avait tous les droits, c'est vrai, il a piqué les meilleurs. Hein. On a fait une grande audition pour lui. On lui a dansé, il était dans le studio, on lui a dansé le dernier acte de La Belle au bois dormant, pour qu'il voit la possibilité de chacun. Et là, il a choisi et il est parti, avec les meilleurs, à son avis. Moi non, j'ai gardé quand même des gens très, très, très bien. Enfin, ça c'est le côté cubain. Alors là, je suis habitué à lutter et à avoir du courage et à ne pas me rendre. À aucun moment, j'étais contre Roland. À aucun moment. Voilà. Au contraire, je voulais collaborer. Mais c'est lui qui ne voulait pas. Alors, au début, ça a été très bien. On s'est rencontrés. Mais il voulait que je sois une nullité. J'étais directeur de l'école à l'époque. Il y avait beaucoup d'élèves. À un moment donné, on avait 144 élèves. Donc, avec mes moyens, j'avais quand même traîné, j'étais déjà j'étais resté plusieurs années à l'Opéra de Marseille, avec Lazzini, avec Madame Actower, et je connaissais tout ce qu'il y avait, tous les couloirs de l'Opéra, les vestiaires, tout, je connaissais tout. Alors donc, avec le peu danseurs qu'il m'a laissé, que Roland m'a laissé, et les élèves de l'école, j'ai fait un spectacle. Et ce spectacle de ballet a eu à faire un triomphe. Alors là, les critiques de l'époque, elles m'ont senti. À l'époque, il y avait 3-4 journaux à Marseille. Il y avait les Provençales, les Méridionales, les Soirs et la Marseillaise. Les 4 journaux ont fait des critiques mirobolantes. C'est ça qui a cassé le rapport avec Roland. Après ce spectacle, il a décidé qu'il ne ferait plus de spectacle à l'opéra. C'est-à-dire que.
Il avait ce pouvoir-là, alors.
Ah oui, il avait tous les pouvoirs. Hein. Alors, donc j'étais le directeur du ballet de l'Opéra de Marseille, mais la scène de l'Opéra de Marseille, les plateaux m'étaient interdits. Alors j'étais obligé de faire des spectacles en dehors, en plein air, dans les parcs, dans des choses comme ça. Ou dans la région, Manosque, La Ciotat, Marignane, Cavignon, jusqu'à Cannes, hier, mais pas à l'Opéra de Marseille. Jusqu'à une seule fois, quand ça a été le bicentenaire de l'Opéra, que, alors, on a fait une série de spectacles, l'orchestre a fait un grand concert, et on a fait un opéra, etc. Et alors, on a permis que les ballets de l'opéra se manifestent. Et on a fait un spectacle de ballet qui a été un triomphe en plus. Avec mes moyens, j'ai fait des spectacles qui ont très bien marché. Bon, La Bayadère, Les Millions d'Arlequin.
Est-ce que c'était de Marius Petipa?
Oui.
Est-ce que vous pouvez me parler de l'influence de Marius Petipa, qui était danseur, maître de ballet et chorégraphe marseillais de l'époque du 19e siècle et qui a fait beaucoup, la plupart de sa carrière en Russie? Qu'est-ce qu'il représentait pour vous?
Mais c'est les plus grands, c'est les pères du ballet classique. Et nous avons l'honneur, parce qu'il est né ici à la rue du Marsay, à côté de l'Opéra. Alors, Marius Petipa, c'est le monde entier en train de faire des ballets deux siècles après de Marius Petipa. En Australie, en Angleterre, au Japon, en Chine, à Cuba, en Argentine. Enfin, c'est l'endroit où on fait le moins, paradoxalement. Mais sinon, en toute l'Europe, en Russie, c'est sacré, Marius Petipa. Sacré, vraiment sacré.
D'ailleurs, vous vous êtes rendu sur sa tombe.
La première fois que je suis allé à Leningrad, tout de suite, je suis allé voir la cimetière et il y avait pas, je croyais qu'il devait avoir un truc majestueux. Il n'y avait qu'une dalle par terre. Alors, j'ai fait un scandale. Alors, je parlais déjà russe. Alors, je suis allé voir les autorités du cimetière. C'est un cimetière spécial qui est à Leningrad où il n'y a que les grandes pointures. Voilà. Il y a Tchaïkovski qui est là enterré. Il y a Glazounov. Il y a des grands acteurs du cinéma ou du théâtre. Poète, voilà, c'est un cimetière très particulier. Petit pas était, mais une dalle par terre uniquement. Alors, il était scandalisé. Il dit, mais c'est pas possible, comment? Alors, là, un scandale. Alors, on l'a su, le type qui était le responsable du cimetière a dit, mais j'ai oui, écoutez, dans un tiroir, dans les années 20, on a voulu faire quelque chose, mais on a abandonné. Il faut le faire! Il faut le faire. Alors là, ça, on a su ça, parce qu'il y avait des amis dans le monde intellectuel à Leningrad à l'époque. On l'a su. La radio Leningrad m'a invité, on m'a fait une interview à Leningrad. Et après, je me rappelle, dans les musées à l'époque de Leningrad, pour pouvoir rentrer, il fallait laisser le passeport à la porte. Et moi, j'arrivais, on me disait, non, vous pouvez rentrer. Il n'y a pas de problème, vous pouvez rentrer. J'étais très connu. Ça ne durait pas longtemps. Hein, mais parce que c'était tellement le scandale que j'avais fait. C'était tellement grand. Et finalement, on a mis un monument. Il a eu son monument, petit peu, à la fin.
Rudolf Nureyev, vous l'avez connu?
Mais j'ai connu Rudolf là-bas, en Russie. J'étais à Moscou. Alors, à ce moment-là, la compagnie où il travaillait, à Leningrad, était venu en tournée à Moscou et danser dans un parc. Là, j'avais une amie, une cubaine, qui s'appelait Menia Martinez, qui était dans le ballet. Alors, je voulais savoir, avoir ses nouvelles. Après le spectacle, je suis allé voir une danseuse qui s'appelle Niniel Petrova pour lui demander des nouvelles de Menia, de mon amie. Et il y avait un garçon qui tournait autour et qui avait dansé, qui était lui, Nureyev. Qui a entendu que j'étais cubain et que je m'intéressais par Menia, et il était le copain de Menia. Il y avait une fille qui traduisait. Il a demandé de mes nouvelles, et quand il a su que j'étais danseur en plus, parce qu'il était en activité, il a dit, ah ben, il faut que vous veniez me voir, venez voir un cours, là, nous avons demain, on a un cours, venez, vous allez vous intéresser. Il voulait savoir. Et il était très curieux de ce qui se faisait en Occident. Et il voulait que je prenne les cours, il voulait voir comment je dansais. Mais je lui ai dit, mais écoutez, je suis ici en vacances, je n'ai pas de Nicolas, ni chaussons, ni rien. Il m'a dit, on vous le trouve, mais venez au cours. Il voulait absolument voir ce que je pouvais faire. Et finalement, je lui ai dit, non, vous savez, en ce moment, j'ai très mal à la cheville. J'ai inventé parce que je ne pouvais pas me mesurer. C'était mille fois meilleur danseur que moi. Mais je suis allé quand même au cours. Le professeur s'appelait Boris Vredats, un ancien danseur. Et là, lui, il a dansé, là, il a fait un cours, mais enfin un cours brillantissime. Et je lui ai dit, voilà, oui, bravo, etc. Moi, je suis parti. J'oubliais complètement. Pas l'oublier, parce qu'après je suis revenu en Finlande. Et là j'ai connu une j'ai travaillé avec une danseuse qui s'appelle Elsa Silversson, qui connaissait lui, qui avait travaillé avec lui. On en a parlé de lui, etc. Mais après j'avais oublié. Et j'étais retourné à Cuba.
Vous l'avez connu aussi à Marseille?
Tout à fait. Quand j'ai travaillé avec Lazzini, il est venu danser Gisèle avec Yvette Chauviré. Et là, évidemment, le jour où il est arrivé, je lui ai dit, vous ne vous rappelez pas, je vous ai connu, on s'est rencontrés à Moscou, À l'époque, il était ébloui, parce que alors, tout le monde le courait derrière. Il y avait les problèmes de police et de tout cela. Il a dit, oui, merci. Voilà. Quand il est venu après, pour faire la belle au bois d'Omar, à l'époque où il y avait Madame Hightower, là où on a pu parler, on a pu discuter, mais c'était sa période superficielle, si vous voulez. Il était choyé, il était adoré dans le monde entier, déjà. Alors là, moi, je n'avais pas l'envie de me mettre à ses pieds. J'étais très fraternel, avec lui, mais sans plus.
Pedro Consuegra, est-ce que vous pouvez, avant qu'on passe à la fin de votre carrière, hein, la partie cubaine, puisque vous revenez finalement, vous renouez avec Cuba, est-ce qu'on peut évoquer les meilleurs souvenirs que vous avez eus avec Marseille? Est-ce que comme ça, vous pouvez citer un ou deux souvenirs mémorables pour vous?
J'aime Marseille. Voilà, c'est le vieux port, la Canevière, Notre-Dame de la Garde, les Calanques. C'est peut-être à cause des Pagnols. Là, en arrivant à Marseille, tout de suite, j'ai eu des amis. Il y avait un photographe à l'opéra qui a décidé de lui-même de me marseilliser. Et lui, il m'a fait connaître toute la littérature des Pagnols que j'ai lue et que j'ai bu avec anxiété. Les trois livres, là, vous allez rigoler, vous allez rire. Les trois films, Marius, Fanny et César, je les ai vus plus d'une fois. Vous savez que ce sont des chefs-d'œuvre reconnus par Orson Welles et par le monde entier, ce film. Les Marseillais les voient comme ça, un peu avec dédain. Petit à petit, je me suis intégré. Je m'ai intégré à Marseille. À tel point qu'à Cuba, je suis retourné en 1990, on a voulu que je retourne à Cuba dans la compagnie. Et là, je leur ai dit, je suis désolé, mais maintenant je suis à Marseille, je ne peux pas quitter Marseille. J'ai recommencé à travailler à Cuba en 1990. J'étais encore attaché à l'opéra. Je suis allé comme ça, invité, Alice Alonso, la directrice, qui m'avait invité. Et j'ai commencé à faire des ballets là-bas. Chaque fois qu'il y avait un festival, j'allais et faisais un ballet. Et ça marchait très bien. Et Alice Alonso voulait que je quitte Marseille et que je m'installe. Il me proposait de travailler dans la compagnie, dans le ballet national de Cuba. C'est paradoxal. C'est le monde qui tourne. Et elle m'a dit, oui, mais Pedro, tu parles des langues, tu es maître de ballet, tu sais donner un cours, tu sais faire des chorégraphies, tu sais gérer une compagnie. Alors j'ai besoin de quelqu'un comme toi. En plus, tu es cubain. Oui, mais vous savez, je suis engagé à l'Opéra de Marseille, je ne peux pas quitter. Alors, on verra après, quand je serai à la retraite. Alors, je croyais qu'elle avait oublié ça. Mais lorsque je suis allé à la retraite en 2003, j'ai eu un appel. Elle l'avait su parce qu'elle savait tout, Alice. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée. Alors, elle m'a dit, bon, alors maintenant tu es à la retraite, maintenant tu peux venir au ballet, à la compagnie. Et j'ai continué à aller faire des ballets là-bas, en tant que chorégraphe.
Ici, vous êtes chez vous maintenant.
Écoutez, quand on est jeune, les changements là, c'est pas grave. Mais au fur et à mesure qu'on vieillit, on aime de moins en moins les changements. Je vais rester ici, ben jusqu'à ma mort.
Et aujourd'hui, Pedro, est-ce que vous continuez à danser ?
Je m'entraîne toujours. J'ai une barre chez moi. En fait, la plupart des danseurs, ils ont eu une longue vie de danse. Et on ne quitte jamais. Hein, ça, on ne peut pas, comme ça, devenir un citoyen lambda. Il y a toujours, on a ça dans les sang après. J'ai ma barre. Et je suis pas grossi, j'ai toujours la taille, le physique d'un danseur.
Merci Pedro Consuegra. Au revoir.
Merci à vous. Merci à vous. J'espère que les gens qui vous écoutent vont aimer cette interview. Voilà.
Vous venez d'écouter Voix marseillaise, une émission de David Hacoun. Merci à Sidi de Radio Galère et je vous dis à bientôt. Au revoir. Thank you.